Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et en parlant de bien, on va parler de bien-être aujourd'hui, on va parler de santé physique, de santé mentale, on va parler de pratique, de ce qu'on appelle médecine alternative, médecine complémentaire, certains même font de la médecine traditionnelle. On parle aussi d'INM, d'intervention non médicamenteuse. On va voir quelles sont les frontières entre toutes ces pratiques, quelles sont leurs spécificités et ensemble essayer de vulgariser afin que vous, chers auditeurs, puissiez sortir de cette émission en ayant conscience, en sachant de quoi vous parlez. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table Camille, qui est directrice générale de la plateforme Tribia, qui regroupe plusieurs professionnels de médecine douce, entre guillemets, et qui les met en lien avec des patients, avec le tout venant. C'est bien ça?
Alors oui, bonjour déjà, merci Lionel de nous accueillir. Oui, donc Tibria est justement la plateforme dédiée aux médecines douces et pratiques complémentaires sur le Grand Est pour les humains et les animaux. Donc
pour les humains, oui, il faut le préciser, aussi pour les animaux. On aura le temps d'y revenir tout au long de cette émission. J'ai aussi le plaisir de recevoir Rémi Etienne, qui est infirmier en cancérologie, qui utilise l'hypnose et qui co-dirige avec Virginie Hypnosia. Bonjour.
Bonjour, un grand merci pour cette invitation. Donc, effectivement, donc je pratique l'hypnose à l'hôpital depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et je co-dirige le centre avec Virginie Adam, le centre Hypnosia, qui est un centre de formation pour les professionnels de santé essentiellement. Voilà.
Je reçois aussi Anaïs, qui pratique notamment le shiatsu et bien d'autres choses dont vous allez nous développer tout au long de cette émission. Bonjour.
Oui, bonjour, merci pour ton invitation. Donc, je suis praticienne shiatsu pour les animaux et les humains. Et en parallèle, je pratique aussi la communication animale.
Alors, on est aussi en insert téléphonique avec Anne-Marie, qui est réflexologue. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Lionel, oui je suis réflexologue en Indre-et-Loire, à côté de Tours, et je pratique en cabinet privé donc la réflexologie plantaire et aussi l'auriculothérapie.
Et on aura le plaisir de recevoir dans quelques minutes aussi Tabitha qui fait de la naturopathie. Alors on a parlé de plusieurs pratiques, plusieurs professions. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer déjà par Camille qui va nous présenter sa plateforme et puis ensuite on va laisser chacun rentrer dans le détail et définir ce qu'il fait. Camille ?
Oui, alors pour aller un peu plus dans le détail, rapidement vous posez un peu le contexte aussi de cette création. Donc avec mon associée Nadia Couzeau, donc qui est sur Strasbourg, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là avec moi aujourd'hui, mais on est tout le temps ensemble, voilà, à distance et on se voit au moins une fois par mois en vrai. Donc on a décidé de créer cette plateforme suite en fait à des réflexions personnelles justement, donc on est amis aussi au départ, on s'est rencontrés dans une librairie, elle était venue en tant que cliente pour justement prendre des renseignements sur la naturopathie, elle voulait justement se former, faire une reconversion professionnelle à ce moment-là. Et puis moi j'étais dans une réflexion, savoir si je me lançais aussi en art-thérapie et du coup on s'est réunis sur nos valeurs, nos envies aussi de développement professionnel et c'est sorti d'une insomnie du côté de Nadia. Après toutes ces réflexions, on est entouré de praticiens, famille, amis et justement souvent la problématique c'était la visibilité, trouver des clients, beaucoup de solitude aussi en sortie de formation, après chacun partait dans son coin et donc du coup cette insomnie, Nadia 5h du matin, voilà, elle s'est dit j'accueille tout ça elle se posait la question qu'est-ce qui marche justement en ce moment, donc fin 2021 c'était pas compliqué, donc Doctolib et quelles sont ses valeurs, donc c'était les médecines douces, pratiques complémentaires et du coup elle s'est dit voilà c'est ce qu'on va faire avec Camille, donc bien sûr moi j'étais pas au courant hein, j'étais chez moi au lit, je dormais pour les deux et le lendemain matin elle est venue avec les croissants parce qu'il fallait un petit peu m'acheter quand même pour me présenter justement ce projet-là et donc on s'est lancé. Alors c'était vraiment c'est une aventure justement extraordinaire, donc on s'est associé en en mai 2022 et la plateforme est en ligne depuis le 12 octobre officiellement. Donc on recrute, en tout cas on sélectionne vraiment les praticiens pour leur éthique professionnelle et leur éthique aussi humaine. Ces valeurs, c'est pas du marketing, hein, c'est vraiment ce qu'on a créé, notre monde à nous, vraiment pour cette bienveillance, cette entraide et d'œuvrer vraiment ensemble pour faire connaître justement ces pratiques, les légitimer aussi, puisque c'est assez compliqué pour beaucoup en ce moment aussi de savoir vers qui se tourner, hein, souvent des protocoles et puis certaines pratiques qui sont adaptées ou pas. Du coup, nous, on veut vraiment se rapprocher aussi du mode de fonctionnement de la médecine intégrative, donc vraiment, comme on voit en Suisse, en Belgique ou au Canada, enfin voilà, de pouvoir œuvrer justement en parallèle de la médecine traditionnelle. Donc là, c'est les praticiens qui nous rejoignent, donc c'est déjà avec le cœur aussi, et donc on les rencontre tous, un par un, et puis on avance justement ensemble. Pour nous, c'est des collaborateurs. Donc là, vraiment sur le Grand Est, on verra par la suite plus tard, mais voilà, pour l'instant, on est presque 40 maintenant, et ça se développe tous les jours de plus en plus, et voilà, c'est vraiment une communauté de praticiens merveilleuse.
Alors, est-ce que vous avez saisi là une opportunité, parce qu'on a des sites comme Doctolib, qui, depuis peu, hein, selon nos confrères de TF1, font la chasse aux naturopathes sur leur plateforme. Est-ce que vous vous servirez peut-être de filtre pour aiguiller les personnes vers le bon interlocuteur?
Alors justement, donc c'est vrai que c'était pas prévu, hein. Nous, quand on voulait créer cette plateforme, on savait que c'était en 2022, on savait pas pourquoi. Il s'est passé, donc on a lancé vraiment, donc on s'est, ça s'est été créé vraiment en avril, enfin mars-avril, et ensuite on est sorti du coup à la rentrée. Doctolib en effet a donc dû prendre des décisions aussi compliquées pour ses professions, donc des milliers de praticiens ont dû quitter la plateforme, enfin c'est en cours. Nous, on surfe pas justement sur tout ça, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir aiguiller vraiment au mieux les particuliers sur la formation justement des praticiens, donc sur les fiches praticiens que vous pouvez voir sur la plateforme, donc www.tibria.fr. Vous avez justement tout le parcours aussi du praticien, les diplômes et certifications. Alors pour certaines pratiques, les certifications, c'est un peu difficile aussi, parce qu'elles sont pas forcément réglementées comme d'autres, mais par exemple la naturopathie, l'hypnose, on fait vraiment toute une vérification aussi des écoles, et nous, ce qu'on veut aussi, c'est justement pouvoir être en lien avec ces écoles-là pour pouvoir aussi proposer aux praticiens qui sont perdus aussi pour leur formation, parce qu'on a eu beaucoup de rencontres où ils étaient perdus, ils ont été mal formés aussi, enfin en tout cas mal orientés. On leur a promis des trucs et finalement c'était pas du tout ça, et même dans la pratique. Donc on est vraiment là pour accompagner ces professionnels et du coup les particuliers, pour être vraiment le plus à même de savoir vers qui et quoi se tourner.
Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Rémi, Étienne et Virginie. De quoi parle-t-on quand on parle d'hypnose thérapeutique, si je peux m'exprimer ainsi? Parce que bon, pour la plupart, quand on parle d'hypnose, on voit les shows comme Mesmer, on voit des gens à qui on demande de faire la toupie, etc. Là, c'est pas du tout le cas.
Non, et je pense que c'est important de le préciser. Je vous remercie encore de donner la parole sur ce sujet, parce qu'il y a encore trop de représentations sulfureuses de l'hypnose. Alors indirectement, effectivement, certains programmes télévisés y participent, parce qu'on invite Mesmer, on invite des gens à faire le show, donc c'est évidemment là dans le champ du divertissement, mais c'est un peu moins connu. L'hypnose, elle est quand même maintenant utilisée depuis, on va dire, plusieurs décennies, hein, dans le champ de la thérapie. On le doit notamment à son fondateur, hein, Milton Erickson, qui a donné d'ailleurs son nom à cette forme d'hypnose un peu singulière, qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose finalement beaucoup plus permissive, beaucoup plus indirecte, qui va finalement respecter le patient, respecter le sujet, en minimisant effectivement l'utilisation de suggestions directes, type « dormez, je le veux, regardez-moi dans les yeux », voilà. On sait qu'effectivement, cette forme d'hypnose aujourd'hui est beaucoup plus adaptée au profil des patients qu'on va rencontrer, notamment à l'hôpital.
Virginie ?
Pour compléter les propos de Rémi, c'est vrai que cette hypnose ericksonienne, elle se développe de plus en plus dans le champ du médical, que ce soit dans les soins techniques, on va dire, dans le champ de la douleur, par exemple, ou au bloc opératoire, et puis dans le champ de la psychothérapie, puisque moi, je suis psychologue. C'est un merveilleux outil, en fait, complémentaire, où nous, on a été formés à utiliser beaucoup l'intellect, et où là, on passe par le corps, et c'est une vraie révolution pour les patients, là aussi.
Alors, quelle est la place de l'hypnose dans vos traitements? C'est-à-dire, comment ça se manifeste? Comment vous le pratiquez? À quelle échelle? À quelle fréquence? Est-ce qu'il y a des préconisations? Est-ce qu'il y a un cahier des charges?
Alors, on travaille tous les deux à l'Institut de cancérologie de Lorraine à Nancy. Moi, j'ai la chance en tant qu'infirmier d'avoir une consultation dédiée à la pratique de l'hypnose maintenant depuis une dizaine d'années. Moi, le profil de patient que je vais recevoir dans le cadre de mes fonctions, ça va être essentiellement des patients qui vont avoir des douleurs chroniques, soit en lien avec les traitements, soit en lien avec la maladie. La prise en charge aussi des effets pénibles en lien avec les traitements, comme les nausées, les bouffées de chaleur, les acouphènes, enfin... toute la myriade de symptômes qu'un patient en cancérologie peut rencontrer, et on se rend compte que l'hypnose va apporter clairement au patient un plus. Alors évidemment, ça ne se substitue absolument pas au traitement, hein. Ça vient, comme on le disait, en complémentarité des traitements allopathiques, des traitements standards, mais c'est clairement une branche, en tout cas, que l'hypnose va pouvoir accompagner, c'est-à-dire tout le champ émotionnel, tout le champ de ce que Virginie évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport au corps, le rapport à la souffrance, que l'hypnose va explorer et on va proposer surtout aux patients de s'approprier l'outil. Et ça, c'est une des particularités aussi de l'hypnose, en les formant à l'auto-hypnose. L'idée, en fait, c'est d'autonomiser le patient avec des techniques hypnotiques pour qu'il puisse lui-même s'en servir lors de crises douloureuses ou lors d'attaques de panique ou toutes sortes en fait, de symptômes qu'ils peuvent rencontrer.
Virginie ?
Et puis moi, on va dire, pour la partie plus émotionnelle ou en tout cas en lien avec l'angoisse, parce que quand on parle du cancer, c'est un mot qui fait peur et c'est souvent effractant dans la vie du patient, et bien c'est de leur permettre de se réassocier, de ne pas se résumer en fait à un protocole de soins, à un symptôme douloureux, à quelque chose qui fait mal, et de rester un être humain vivant jusqu'au bout, en fait, avec des sensations, avec du plaisir, de la joie. Enfin, c'est pas incompatible.
Donc vous essayez au maximum, en tout cas, d'humaniser la personne que vous avez en face de vous. Ça passe aussi par beaucoup d'écoute.
Principalement. Tout d'abord, ouais. Et puis après, de cette écoute-là, en prendre les petits détails qui montre bien qu'on a un être humain en face de nous avec ce qu'il aime faire, avec ce qui lui fait plaisir et d'amplifier finalement ce phénomène-là pour qu'il reste vivant, enfin vraiment.
Anne-Marie, en tant que réflexologue, je pense que ce volet-là sur l'écoute, c'est une partie qui incombe à votre métier.
Bien sûr, j'aime beaucoup cette notion d'humanisation, d'écoute, et de prendre en charge aussi toute cette partie émotionnelle qui est très souvent oubliée. De toute façon, la personne est prise en charge d'une manière holistique. Hein, son état émotionnel, son mental, sa vitalité, et bien sûr le physique et le biologique. Et là aussi, donc donc on essaye de prendre en charge tous ces fondamentaux qui font que la réflexologie est tout à fait complète.
Et concernant la réflexologie, comment vous la pratiquez vous aussi? On a vu là Rémi et Virginie nous expliquer comment ils recevaient leurs patients, la façon dont ils les accueillaient. Comment ça se passe en rendez-vous chez une réflexologue?
Alors, il y a déjà une première partie où il y a un petit questionnaire qu'on appelle l'anamnèse, où là la personne va révéler ce qu'elle a comme dysfonctionnement, comme pathologie, donc des choses qu'on va facilement retrouver après sur les pieds. Et puis, il y a aussi la façon de s'exprimer, enfin, c'est quelque chose de très subtil, ce que l'on ressent justement de cette personne dans sa façon d'être. Donc ça c'est pour la première partie, et puis ensuite, la personne est dans un fauteuil ou sur ma table de massage, et sur les pieds, il y a des zones que l'on appelle zones réflexes qui représentent des organes, des viscères, des grands systèmes. Et avec un toucher particulier, en reptation, on va ressentir des points qui vont être un peu chargés, granuleux, comme s'il y avait un petit du sable un peu dans les rouages. Et puis la personne aussi va exprimer des petites douleurs, des sensations d'inconfort. Donc je la préviens à l'avance en disant ça serait bien qu'on puisse justement partager ces moments-là. Moi, ce que je ressens, je vous dirai à quoi ça correspond. Et puis vous, s'il y a des zones qui sont inconfortables, voire douloureuses, dites-moi aussi, et puis je vous dirai à quoi ça correspond. Et comme ça, on va échanger justement sur vous, sur tous ces ressentis. Et les pieds révèlent, les pieds parlent, les pieds révèlent énormément de choses, que ce soit sur un état, un dysfonctionnement, mais aussi sur un état émotionnel. Sur des choses voilà, qui sont à la fois très concrètes et très subtiles.
Cette notion de massage aussi, elle est présente dans votre métier, Anaïs, dans le shiatsu. C'est quoi le shiatsu? Parce que je pense que la plupart de nos auditeurs vont me taper dessus si on n'explique pas au préalable.
Alors oui, complètement. En fait, le shiatsu, c'est une technique japonaise en fait, qui permet... par technique de, on appelle ça des pressions-relâchements en fait, qu'on utilise avec nos mains, de rééquilibrer l'énergie dans le corps, donc sur le trajet des méridiens de l'acupuncture. Donc en fait, ça rejoint exclusivement ce qu'elle vient de dire par rapport à la réflexologie, sauf que là, on va vraiment toucher l'intégralité du corps. Donc là, c'est pas que les pieds, c'est de la tête aux pieds, en fait, tout le corps. Donc on va... Pareil aussi, ça va vraiment. Alors c'est pas un massage en fait, parce que c'est vraiment des pressions, relâchements qu'on utilise avec principalement nos paumes de main et les pouces. Le but c'est vraiment de faire un rééquilibrage sur tout le corps. On va travailler sur l'ensemble des méridiens et donc du coup sur l'ensemble des organes. Et le corps, bah pareil, va nous révéler aussi l'état. Global de la personne, ça en compte vraiment la partie holistique pareil, parce que du coup on va travailler à la fois sur le psychique, à la fois sur le mental, le physique, c'est vraiment l'intégralité des déséquilibres. Donc on peut vraiment travailler sur tout. Hein. On dit qu'à la base le shiatsu c'est conseillé de faire en prévention. On conseille de faire en fait à chaque changement de saison, parce que en médecine chinoise, chaque saison correspond à, à un organe. Qui du coup permet de rééquilibrer. Donc l'idéal, c'est de faire à chaque changement de saison pour éviter d'avoir des déséquilibres. Après, on peut du coup très bien travailler ce qu'on appelle en curatif plutôt. Par exemple, pour des problèmes de tout ce qui va être lié au psychique, donc à l'anxiété, au stress. Pour le physique, on va travailler sur la détente musculaire. Donc là, on peut très bien toucher, par exemple, des personnes lambda ou aussi des sportifs pour la récupération lors des épreuves sportives. On va également pouvoir aussi travailler sur les femmes enceintes lors de la grossesse pour travailler les maux de grossesse, donc les nausées, la circulation sanguine dans le corps. Le problème aussi, toujours pareil, émotionnel, parce que c'est quand même un gros chamboulement dans la vie d'une femme. On va aussi pouvoir travailler aussi dans l'ordre de la grossesse sur le postpartum aussi par la suite, beaucoup aussi sur le travail émotionnel. Et on peut aussi travailler sur tout ce qui est problème donc digestif, les ballonnements, les diarrhées, les choses comme ça, et aussi tout ce qui va être des déséquilibres gynécologiques. Donc là, on va être sur des déséquilibres au niveau du cycle menstruel. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et je pratique aussi, du coup, moi, sur les animaux. Et globalement,
c'est un peu la même chose sur les animaux.
Exactement la même
pression,
chose.
Relâchement.
Pression, relâchement, exactement la même chose. Sauf que, du coup, c'est des animaux. Et pour le coup, ils ne parlent pas. Donc, on peut difficilement. Enfin, on ressent les choses différemment, mais c'est exactement la même chose. Et on va travailler exactement la même chose aussi.
Et quel est le but finalement? Est-ce que c'est une pratique qui vise à réduire, par exemple dans le cas de l'anxiété, ou alors qui prétend ou vise à soigner
Alors, en shiatsu, on ne soigne pas. On vient vraiment en complémentarité d'une autre pratique. Ça ne se substitue pas du tout à un ordre médecin ou des sages-femmes lorsqu'il s'agit de grossesse. Mais en fait, comme un peu l'hypnose, on va vraiment venir en complémentarité. Et du coup, ça va atténuer les douleurs. Tout ce qui va être le psychique, ça va permettre de réduire aussi le stress. La personne, quand elle a une séance, l'effet immédiat vraiment après la séance, c'est vraiment une détente profonde. Il y a même des fois certaines personnes qui arrivent à s'endormir des fois après une séance. Donc ça c'est vraiment le but ultime. Et après, il se passe encore plein d'autres choses dans le corps. Et après, c'est individuel, en fait. Tout dépend de la personne, tout dépend de l'animal aussi. Chaque personne réagit différemment. Donc, puis tout dépend aussi des déséquilibres que le corps peut avoir. C'est propre à chacun, quoi.
Donc, c'est une séance qui relaxe. Les personnes ne s'endorment pas pendant la séance, quand
même. Non. Ça arrive qu'à la fin, il y ait des personnes qui se soient endormies. Bon, elles se réveillent quand même très vite, heureusement. Mais ça permet vraiment une détente, mais pas que, parce qu'on a quand même... on va vraiment quand même travailler le corps. Donc... il est possible que parfois ça puisse faire remonter aussi des choses émotionnelles. On va quand même travailler. Enfin, c'est assez profond quand même comme séance. C'est pas un massage de bien-être. On va quand même travailler sur l'intérieur du corps, si je peux dire ça entre guillemets. On peut travailler en même temps un peu sur les mémoires du corps qui, voilà, les douleurs qu'on garde en nous. Quand on va toucher le ventre, on va quand même travailler l'aspect psychique de la personne. Ça a vraiment un accompagnement vraiment très global, holistique, en fait, de la pratique.
Et notre naturopathe du jour nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est que la naturopathie ?
Alors, la naturopathie, il y a déjà des choses qui ont déjà été dites et forcément, il y a des choses qui se recoupent. C'est pouvoir optimiser le bien-être de la personne et optimiser la manière dont le corps peut s'auto-régénérer, du coup, par des moyens simples et naturels et du coup, qui vient en complément, du coup, soit déjà d'une visite chez le médecin avec, par exemple, des diagnostics. Bien sûr, on ne se substitue pas du tout. Ce n'est pas à nous de poser des diagnostics sur les symptômes qu'on voit. Et le but, c'est de faire à un moment T vraiment un état des lieux, si je puis dire, de comment fonctionne la personne, comment fonctionne son corps, comment fonctionne chaque partie de son corps. On va regarder au niveau de la peau, on va regarder au niveau ostéo-articulaire, on va regarder au niveau pulmonaire, digestif, etc. Mais on va aussi aller regarder au niveau émotionnel, comment la personne gère à ce moment-là, bien ou de façon difficile, un peu les différents stress qu'elle peut gérer, qu'elle peut avoir du coup dans sa vie. On va regarder au niveau des traumatismes qu'elle a pu vivre. On va regarder aussi au niveau alimentaire, ça c'est quand même une grosse partie. Hippocrate nous dit que le premier aliment, que ton premier médicament, que ce soit vraiment ton aliment. Donc on va faire un peu un état des lieux au niveau alimentaire. Et en fait, à partir de tout ça, du coup, on va regarder qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc, ça reste des recommandations, ça reste des conseils. C'est pas du tout, ni un protocole à proprement parler et encore moins une prescription. J'ai régulièrement donc des gens qui disent « Est-ce que vous allez m'envoyer votre prescription ?» Je rappelle bien que non, pas du tout. Pas du tout dans l'ordre d'une prescription médicale. Et à aucun moment, je rappelle aussi aux personnes qu'on a le droit de toucher à leurs traitements qui sont déjà en place et que ça, c'est à voir avec leur médecin traitant. Et c'est bien... Et c'est important de savoir quelle est notre marge de manœuvre, est-ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, donc c'est vraiment une prise en charge globale de la personne. Et c'est regarder, en fait, d'essayer d'aller comprendre la cause. Il y a vraiment cette pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez mal au ventre ? Quel est le problème ? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'hygiène alimentaire ? Quelqu'un qui ne mange pas ou qui, par exemple, j'ai des personnes qui viennent et qui mangent seulement un flan à midi, qui s'étonnent après, par exemple, d'avoir mal au ventre ou d'avoir des carences.
La partie alimentaire, elle est vraiment centrale dans la naturopathie.
Exactement. C'est-à-dire que ce que j'explique aux personnes, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des conseils, par exemple, pour réguler le pancréas ou pour par exemple nettoyer la peau. Mais si en amont, l'alimentation ne va pas ou s'il y a des déséquilibres qui sont beaucoup trop importants, l'efficacité sera beaucoup moins importante. Donc c'est pour ça que généralement, on vérifie aussi jusqu'à quel point les personnes sont capables de changer leur alimentation et ce qu'on s'en prête à faire. Donc on parte aussi de leur motivation. Le but, c'est pas de changer tout de suite leur alimentation, mais au moins travailler les gros axes pour pas se retrouver en fait en difficulté sur des choses qui n'avancent pas simplement parce que la cause n'est pas travaillée. Et que d'une personne à l'autre, sur les mêmes symptômes, la cause peut être complètement différente.
Et on va approfondir ces sujets-là, ces causes, les conséquences et puis les bienfaits de ces médecines douces. Mais avant, on va s'octroyer une pause musicale avec un artiste qui va voir le docteur, mais lui, pour marier un ange, c'est Pierre Desmer.
Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Si l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel, on fait que te répéter un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles, bientôt vous serez à court. Non, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve. D'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change. Ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. C'est jamais comme au cinéma. Décidément, on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, je rêve. D'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Ne change.
Heures, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Pierre Demar, docteur, un jour je marierai un ange. Alors là, on n'est pas avec des médecins, mais on est avec des thérapeutes. Est-ce que je peux dire le mot thérapeute, Anaïs ?
Oui, oui, vous pouvez.
Alors, Anne-Marie, en tant que réflexologue, quel est le profil des personnes que vous recevez ? Et puis, surtout, qu'est-ce que vous leur préconisez en général ? Anne-Marie, si vous nous entendez. Ah, je crois qu'on a perdu à Anne-Marie. Alors, je vais poser la même question à Virginie, pour le coup.
Allez.
Alors, sur le profil des personnes que vous recevez, alors, et puis en général, oui, les préconisations et les bienfaits, justement, de l'hypnose.
Alors donc à l'Institut de cancérologie de Lorraine, le point commun de tous les patients que je peux rencontrer est la pathologie cancer. Donc je vais rencontrer les patients en début de maladie, à l'annonce de la maladie, pendant leur parcours de soins, en sortie de soins, l'après-cancer, hein, c'est aussi une période pas si simple qu'on ne le croit. Et donc ces patients qui se débattent avec toutes ces problématiques-là, donc on parlait des émotions depuis tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui est très chahuté pour les patients, donc le fait de proposer là aussi un accompagnement avec l'hypnose pour faire un pas de côté par rapport à leurs problématiques, pour faire un pas de côté par rapport aux émotions, au stress que tout ça suscite. On peut avoir des patients avec des troubles anxieux bien caractérisés, des troubles dépressifs plus ou moins marqués, plus ou moins sévères, notamment en période de fin de vie malheureusement. C'est leur permettre effectivement de reprendre un peu le contrôle sur ce qui se passe en fait, de se réapproprier donc leur corps comme on le disait tout à l'heure et de reprendre un peu les rênes de ce qu'ils vivent. Donc les bienfaits, ils vont être là, propres à chacun, comme tu le disais. C'est à chaque fois différent. Mais souvent, le bien-être apporté va être dans cette reprise un peu de leur vie, du cours de leur vie et de la maîtrise des émotions qui les traversent, en fait.
Rémi ?
Oui, ben, alors moi, ce sera un petit peu différent parce que ma pratique est vraiment très centrée sur le champ somatique, hein, sur la douleur, je vous le disais, sur les symptômes. L'enjeu, en fait, moi, en cancérologie avec les patients, c'est de rapidement, je vous le disais, de les autonomiser. Tout leur échappe pendant la maladie. Ils subissent finalement beaucoup de choses, les traitements, les rendez-vous, il y a de la fatigue, etc. Et l'hypnose va venir un petit peu de manière un peu étonnante pour les patients, déjà un temps pour eux. Un temps, ils vont pouvoir se retrouver, révéler aussi leur potentiel de changement, comme le disait Virginie, c'est-à-dire prendre conscience qu'ils peuvent modifier, moduler leur symptomatologie avec l'hypnose. Par exemple, sentir une douleur qui s'évanouit pendant la séance ou qu'une nausée s'en va à distance des séances. C'est aussi prendre conscience qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Mmh. Et moi, l'enjeu, en fait, c'est aussi ça, c'est de pouvoir leur montrer qu'avec cette technique d'auto-hypnose, par exemple, quand ils en ont besoin, ils peuvent s'en resservir. Et je pense que ça, c'est très important parce qu'on a beaucoup de patients qui nous disent c'est la première fois où finalement j'ai le sentiment de pouvoir reprendre les rênes, comme disait Virginie, de ma santé. Mmh. Voilà. Donc c'est ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est vrai que l'hypnose c'est un état naturel, hein, c'est un état qu'on a tous en nous en fait, hein, qu'on peut révéler. On est finalement nous un peu des guides, hein, des révélateurs de ce potentiel.
Comment ça se matérialise l'hypnose? Ouais.
Alors c'est vrai qu'on a un peu parlé tout à l'heure, c'est l'hypnose, qu'est-ce que c'est? C'est un état de conscience modifié par quoi? Modifié par les suggestions qu'un praticien va émettre vis-à-vis d'une personne. On a tous un seuil de réceptivité à l'hypnose qui est variable. Il y a des gens qui sont fortement suggestibles et donc qui vont rapidement entrer en état hypnotique, et d'autres qui le sont moins. L'enjeu en fait du praticien en hypnose, ça va être justement de montrer au patient qu'il peut rentrer dans cet état, mais à sa manière. Mmh. Donc on va l'entraîner, hein, d'une certaine manière, à focaliser son attention, par exemple sur un point, et puis progressivement on va nommer les autres sens qui le parcourent, les sons, les sensations corporelles. Et au bout d'un moment, en fait, en hypnose, il y a une particularité, c'est que le patient il va se dissocier, c'est-à-dire qu'il va se décaler un petit peu de sa douleur. Donc, pour expliquer ça aux patients, on prend souvent l'exemple du trajet en voiture. Hein. Mmh. C'est-à-dire, quand on part d'un point A à un point B, on se dit, tiens, à aucun moment j'ai pensé au trajet, j'étais dans mes pensées et en même temps je conduisais une voiture. Mmh. Donc, on dit que l'hypnose, c'est un petit peu comparable en termes de ressenti. C'est-à-dire que le patient, il sera à la fois là et à la fois projeté, par exemple, dans un souvenir ou dans un événement de sa vie, où on va pouvoir utiliser des suggestions qui vont moduler ses ressentis. Mmh.
Donc quand par exemple on prend le véhicule et on va quelque part et qu'on ne ressent pas le trajet et on se dit oh, tiens j'ai fait vite, je sais pas, c'est une forme d'hypnose finalement.
Alors c'est pas exact, on va parler plutôt de mode par défaut sur le plan neurologique, mais ça se rapproche quand même le plus de ce qui peut être un état hypnotique. C'est-à-dire, parce qu'il y a une particularité aussi en hypnose, c'est que les gens n'ont pas la notion du temps. C'est-à-dire quand on est en état d'hypnose, une séance par exemple va durer 20 à 30 minutes, le patient il aura l'impression que ça a duré 5 ou 10 minutes. Il y a ce qu'on appelle cette distorsion du temps, ce qui la rend comparable avec cet exemple de trajet en voiture où on a l'impression que le temps il a filé, alors qu'en fait ça faisait presque une demi-heure qu'on roulait. Quoi.
Selon une étude Odoxa de 2019, on a 68% des Français interrogés qui croient aux bienfaits des médecines douces, des médecines complémentaires, des interventions non médicamenteuses. Il y a 66% des professionnels du milieu de la santé qui croient aussi fermement en ces bienfaits, mais seulement 33% des médecins valident les bienfaits de ces médecines. Anne-Marie, en tant que réflexologue, quelle est votre opinion là-dessus?
À mon avis, voilà, c'est une méconnaissance de ces pratiques. Alors oui, elles se sont multipliées parce qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui des bienfaits de ces médecines douces qui ne sont pas invasives et qui font du bien parce qu'on les a testées, parce qu'on commence à s'ouvrir et à comprendre le fonctionnement de ces pratiques. Alors, pour ces praticiens de médecine douce, moi, si je peux donner un conseil, c'est d'inviter leur médecin à venir, voilà, gratuitement, à venir prendre, à faire une séance de façon à ouvrir un petit peu leur esprit sur une connaissance qui est différente. Alors, c'est vrai qu'ils ont un cursus lourd qui est très scientifique, où tout doit se prouver, mais il y a des choses qu'on ne peut pas ni prouver ni quantifier, c'est juste des constats. Des ressentis que l'on a par la suite et puis et des très bons résultats. Voilà, pour moi c'est une méconnaissance, mais les choses bougent les choses bougent. On a pu visualiser aujourd'hui, par des moyens techniques, visualiser donc des méridiens. Les méridiens, c'était c'était quelque chose de complètement qui n'était pas scientifique. C'était de la médecine chinoise. C'était des choses à partir du moment où on ne peut pas ni toucher ni voir, ça n'existe pas. Donc je pense que ça évolue quand même. Les mentalités changent, la recherche évolue aussi, et la recherche de plus en plus commence à nous donner raison. Et là, je suis très contente de cette approche-là.
Alors Camille, je pense que tu fais partie des 68% des Français convaincus par les bienfaits de ces médecines. Sur ta plateforme, donc on a dit, elle servira aussi à réguler, à sourcer vraiment les meilleurs praticiens. Il y a plus de 400 formes de pratiques différentes. Est-ce qu'elles sont substituables? Est-ce que les pratiques de médecine douce entre elles sont complémentaires? Comment la plateforme Tibria va orienter quelqu'un comme moi qui n'y connais rien?
Alors justement, ce qui est vraiment important, je rejoins de toute façon tout ce qui a été dit. On parle vraiment de complémentarité. Comme on l'a dit, on se place vraiment en parallèle de la médecine traditionnelle parce que Nadia et moi, on est de toute façon dans ce développement-là aussi, on fait appel à des médecins pour telle ou telle chose et puis pour compléter parce que ça ne répond pas forcément directement à ce qu'on a besoin ou il n'y a pas un effet direct. Ça nous permet vraiment d'avancer avec sérénité aussi et d'être plus à même aussi. Comme l'a dit Anne-Marie aussi, on s'écoute plus. En tout cas, il y a une manière aussi d'appréhender notre environnement, notre corps aussi. Alors, c'est compliqué avec nos vies à 1000 à l'heure actuellement. Et là, Tibria est justement là pour ça, pour même si c'est une plateforme, donc c'est numérique, mais c'est garder vraiment le lien justement avec le praticien, les particuliers, les praticiens entre eux, parce qu'ils se rencontrent et on voit vraiment cette complémentarité qu'il y a avec toutes les pratiques. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure et comme on l'a vu, en fait, on va avoir des redites. Mais c'est parce qu'en fait tout est lié, c'est exactement la même, c'est le même objectif pour toutes, pour la médecine traditionnelle, pour les médecines douces, c'est juste que c'est un outil différent. Et comme on l'a dit, on est tous uniques, on est tous différents, et donc on va avoir des sensibilités différentes face à une telle ou telle pratique. Il y en a certains, l'hypnose ça marche pas, ou il va falloir y revenir plusieurs fois. Puis aussi c'est le lâcher prise, et c'est assez compliqué. Des fois on aime bien aussi maîtriser ce qu'on est en train de vivre. Et puis il y a d'autres choses qui sont plus manuelles, justement le shiatsu, la réflexologie, où ça va être plus direct, plus concret, parce qu'on va le ressentir directement dans le corps. Et d'autres pratiques, la naturopathie, la sophrologie, où ça va être vraiment aussi un accompagnement plus long et aussi d'écoute vraiment par étapes. Donc, elles sont toutes complémentaires. On est tous complémentaires en tant qu'humains aussi. Et c'est ça qui est fabuleux.
Tabitha, on a entendu Rémi et Virginie nous parler dans leur pratique, en tout cas, de la notion de reprise de pouvoir, ce que les Américains appellent empowerment, une forme de reprise de contrôle. Est-ce qu'elle est valable dans la naturopathie?
Tout à fait, parce que justement, on insiste un peu sur le fait qu'on ne prend pas en charge les personnes comme on entend. Enfin, moi, je viens du milieu médical, donc c'est des termes qu'on utilisait beaucoup, prendre en soin, prendre en charge. Là, c'est redonner en fait la possibilité aux gens de pouvoir être acteurs de leur propre santé, en fait. Alors, bien sûr, toujours en lien avec les médecins. Mais par exemple, moi, je dis aux personnes, une fois que la phase est stabilisée, vous n'allez plus avoir besoin de moi, sauf que si jamais il y a des choses qui reviennent, vous savez reprendre vos conseils naturels, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Alors bien sûr, après de temps en temps, les personnes reviennent parce qu'il y a d'autres choses, mais sur des choses qui ont déjà été travaillées, elles vont comprendre, elles vont mieux comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, elles vont mieux comprendre leur cycle, elles vont mieux comprendre aussi dans l'année. Par exemple, en automne, il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées dans notre corps, des choses comme ça, et en fait, elles vont pouvoir être vraiment acteurs de leur propre santé. C'est pas simplement suivre quelque chose parce qu'on l'a dit, comme suivre un protocole, etc. C'est vraiment cette compréhension en fait de qui je suis et de comment je fonctionne et comment je fonctionne avec mes limites aussi.
On parlait aussi du fait qu'il y ait 33% de médecins seulement qui sont convaincus, donc une grande partie qui sont encore réfractaires sur ces pratiques. Est-ce que, pour peut-être les rassurer, ces pratiques-là ont un parcours prédéfini? Est-ce qu'il faut des certifications, des diplômes, même si j'imagine que c'est assez hétérogène? Est-ce qu'il y a des cahiers des charges, des parcours reconnus pour pratiquer ces différentes formes de médecine douce?
C'est là où je pense que toute la question se pose encore aujourd'hui. Ça dépend un peu des pratiques. Par exemple, les ostéopathes aujourd'hui sont vraiment reconnus. Il y en a où il y a encore du travail à faire. Et je pense qu'on est tous vraiment conscients à la fois qu'on a besoin de formation, que c'est vraiment important et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ce que vous appelez le cahier des charges, c'est effectivement un minimum de formation. Si on ne sait pas comment le corps fonctionne, quand on ne sait pas, il y a des choses qui sont nécessaires et indispensables. Et après, on ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, chacun a sa marge de manœuvre et il faut pouvoir être suffisamment complémentaires les uns les autres pour pouvoir renvoyer s'il y a besoin. Moi, je renvoie à une psychologue, par exemple, quand il y a vraiment des besoins importants, où là, je vois que le besoin, il est vraiment justement de travailler et que moi, à ce moment-là, je ne peux pas m'improviser psychologue, je n'ai pas la formation. S'il y a des problèmes que je ne peux pas gérer, par exemple, ça m'arrive régulièrement de travailler avec des ostéopathes. Et c'est intéressant parce qu'on voit le travail et de l'un et de l'autre. Il faut savoir se connaître, savoir ce qu'on peut et que même dans le travail, alors je ne sais pas vous, mais même moi, même dans le travail et dans ce que j'ai appris, il y a des choses où je suis plus à l'aise et des choses où je suis moins à l'aise. Et du coup, si je suis moins à l'aise, je vais pouvoir passer la main à quelqu'un d'autre.
Passer la main, oui.
J'opine du chef parce que je suis d'accord avec ce que tu disais. Je rebondis sur notre institut de formation parce que nous, on forme des professions de santé uniquement. On a fait ce choix-là. Non pas parce que on voulait pas accueillir les autres, c'est simplement parce que je pense aussi, en tout cas pour notre pratique, pour l'hypnose, ça peut aussi des fois partir sur des sujets qui vont être hors champ du rationnel, comme le retour dans les vies antérieures ou des choses comme ça, où des patients vont chercher des réponses dans des concepts qui
sont ésotériques,
ésotériques, voilà, ouais. Exactement. Donc on a voulu cadrer ça à Hypnosia. La particularité aussi, et c'est pour rebondir à votre remarque, comment j'irais pas convaincre, mais
initier peut-être, ou
aller démontrer en fait effectivement que les pratiques fonctionnent. Ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'il faut les évaluer en fait. En ce qui concerne l'hypnose,
comment les évaluer?
Alors,
justement,
en ce qui concerne l'hypnose est rentrée à l'hôpital aussi parce que ça a été une des pratiques les plus évaluées sur le plan scientifique. Il y a eu énormément d'essais en fait cliniques qui ont été menés chez les patients, avec des choses qui ont moins bien fonctionné que d'autres qui ont très bien fonctionné. Donc on sait aujourd'hui dans quoi l'hypnose fonctionne bien et dans quoi elle fonctionne moins bien, et je pense que ça permettra aussi à terme de cadrer aussi les pratiques en les évaluant, et non plus de dire au petit doigt mouillé, tiens, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Même si derrière toute pratique, je pense qu'il y a aussi l'adhésion qui est importante, il y a aussi un effet placebo que le patient, enfin, on sait qu'un patient qui va pratiquer une méthode, quelle qu'elle soit, et s'il y adhère, il y aura forcément aussi plus de résultats. Mais derrière l'effet placebo, il faut aussi pouvoir évaluer l'effet technique. Et nous, à l'ICL, là où je travaille avec Virginie, on a 4 projets de recherche en cours sur l'hypnose, et je pense que c'est important de le dire parce que on randomise, c'est-à-dire on recrute aussi des patients dans des protocoles de recherche pour évaluer ces pratiques-là. C'est souvent peu connu, mais ça existe.
Tout à l'heure, Tabitha parlait de cette notion de prise en charge qui n'est pas vraiment à l'ordre du jour quand on parle de médecine douce, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de prise en charge, mais on donne le pouvoir. Et là, je me tourne vers Anaïs. La place de la communication lors de vos interventions, quelle est sa place justement? Parce que on n'a pas d'études récentes, mais on a une vieille étude qui date de 99 qui dit que les médecins en général coupent la parole au bout de 23 secondes à leurs patients. Bon, on n'a pas d'études récentes. Certains diront que c'est plus à l'ordre du jour. En tout cas, cette étude existait. Est-ce que quand on vient vous voir, la notion de laisser la personne s'exprimer est très importante?
Oui, alors en shiatsu, ça rejoint aussi du coup, comme la réflexologie, moi quand je reçois une personne, il y a toute une anamnèse aussi au tout début, où du coup la personne, je vais lui demander si déjà elle vient pour une problématique quelconque par rapport à ses besoins, si elle a, on va poser plusieurs questions, si elle va rencontrer des déséquilibres digestifs, émotionnels, si elle a des soucis au niveau du sommeil. On va vraiment poser des questions pour savoir un peu comment se situe la personne. Après, en tant que praticien, on a aussi des fois une certaine subtilité où on ressent aussi les choses parce que des fois, les personnes, elles ne veulent pas toujours dire. Ou voilà, c'est pas toujours évident aussi de dire les choses.
Aussi.
Exactement. C'est pour ça aussi, des fois, que si elles disent pas tout, le corps aussi parle pour eux. Mais voilà, on fait tout un... On demande toutes des petites questions avant, au début. Et puis après, c'est en touchant aussi, du coup, le corps. Comme en fait pour les pieds, sauf que là, c'est l'intégralité du corps, on va pouvoir ressentir s'il y a des zones qui sont douloureuses. En général, la personne, elle le dit. Enfin, moi, je n'hésite pas à dire, n'hésitez pas à me dire si c'est douloureux. On va ressentir aussi s'il y a certaines zones qui sont, on appelle en médecine chinoise, les points, si c'est creux, si c'est plein. Ça va nous donner des indications aussi sur l'état énergétique du corps. Et on peut aussi travailler, donc en médecine chinoise, toucher ce qu'on appelle les poux. Chinois, donc pour du coup aussi voir l'état énergétique de certains organes dans le corps, donc ça va nous donner aussi une indication. Et puis voilà, on peut aussi poser des questions d'ordre un peu plus personnel, aussi par exemple des questions sur l'alimentation, ou des questions d'hygiène de vie, si la personne elle fume et choses comme ça. Voilà, ça
et là,
peut
et là
donner,
ça rejoint la naturopathie. Exactement. Et puis pour fumer aussi, en cancérologie, il y a des bons.
C'est ça. Donc tout se regroupe aussi, puisqu'en shiatsu, on peut aussi, par exemple, alors moi j'en ai pas encore eu dans ma pratique, mais on peut aussi du coup avoir des personnes aussi atteintes de cancer, par exemple, où on pourrait éventuellement travailler du coup sur l'état psychique et aussi l'état de douleur, en fait, travailler sur la détente musculaire et tous les, en fait, les effets entre guillemets secondaires de la chimiothérapie.
Sans pour autant dire à la personne d'arrêter son traitement.
On va jamais interagir là-dessus, mais ça a vraiment une phase de complémentarité et on va dire que c'est que du plus en fait. Il y a la phase médicale que nous on ne touche pas et on va avoir la phase de complémentarité qui va soutenir en fait la personne et l'aider dans son développement personnel en fait.
Alors donc cette phase de complémentarité dans la naturopathie, la réflexologie, l'hypnose, le shiatsu, elle peut aider peut-être à atténuer la fièvre de Julien Doré. On l'écoute tout de suite.
Jackie et Michel de venir me chercher. Moi je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si l'époque a des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où est-elle l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. L'enfer, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où est-elle l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où est-elle l'ostéo,
jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et on est sur RCN, on parle d'intervention non médicamenteuse, de médecine douce, de médecine complémentaire, médecine alternative. On essaye de démêler, de dénouer un peu tout ça avec Camille de la plateforme Tibria, Rémi et Virginie d'Hypnosia, Anaïs qui fait du shiatsu, Anne-Marie réflexologue et Tabitha naturopathe. Alors c'est la dernière partie de l'émission. Anne-Marie, en tant que réflexologue, si on devait retenir quelque chose sur votre pratique, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui continuent à décrier les médecines douces. Que répondre ?
Alors déjà, cette notion de complémentarité est très importante. Et au-delà de ça, je dirais de partenariat avec justement le corpus médical qui, voilà, de faire en sorte que le client, patient, s'y retrouve avec, d'un côté, ces médecines douces et de l'autre côté, le médecin, voilà, qui est là, et trouver cette complémentarité, mais ce partenariat.
Il n'y a pas d'opposition entre naturel, chimique, avec les médicaments, parfois, comme on peut entendre.
Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, toutes ces méthodes sont douces, elles ne sont pas invasives, elles sont bien tolérées, même si parfois on a aussi le corps qui réagit en réponse aussi à ces informations qu'on lui a influées. Des réactions, alors ça peut être une migraine, ça peut être un mal de dos, ça peut être voilà, des petites choses qui viennent. Mais en fait, il faut prendre ces manifestations comme du nettoyage. Un corps en bonne santé, c'est aussi un corps qui s'exprime et il s'exprime parfois un petit peu douloureusement parce qu'il se nettoie et plus c'est chronique et parfois plus ça peut être douloureux. Donc, votre question était... Parce que
la question était justement comment essayer d'apporter un peu de lumière sur ces pratiques pour donner un esprit critique et éviter à des personnes de se tromper ou alors d'être médisant sans vraiment connaître.
Alors déjà se tromper, on peut difficilement se tromper puisque ce n'est pas c'est pas invasif quand c'est bien pratiqué. Il y a eu quand même des scandales, mais bon là c'était un petit peu de l'abus de confiance de la part de ces praticiens. Et ils sont allés un petit peu trop loin. Et c'est vrai que la une de certains journaux ont fait du mal à certaines professions, telles que la naturopathie, par exemple. De toute façon, les bons praticiens ne diront jamais qu'ils viennent se substituer ni à un avis médical, ni à un traitement. Jamais. On vient en complémentarité. Le meilleur moyen, c'est le bouche à oreille. Donc, rassurer les clients qui viennent pour une première fois, on ne peut pas. Il faut expérimenter, il faut essayer. Et puis, il y a des pratiques qui sont pour lesquelles des clients vont mieux répondre qu'à d'autres. Il y a des personnes qui vont être très réceptives au Reiki et moins à certaines autres pratiques, peut-être aussi par affinité. Il y a des gens, les pieds, c'est quelque chose de... on ne montre pas ses pieds, il y a une espèce de pudeur. On fait autre chose. On peut faire du facial, du reiki, on peut faire autre chose.
On peut faire aussi de la naturopathie, par exemple, Tabitha, je vous laisse conclure.
Moi, je voulais juste, c'était plutôt un encouragement, parce que c'est quand même dommage, en fait, de se priver de choses qui sont simples, qui coûtent des fois pas forcément très cher, et qui font du bien. Et moi, je suis vraiment émerveillée dans ma pratique de tous les jours de voir que la nature, notre corps, nous donne en fait des moyens et des outils d'aller bien, d'aller mieux. Et ce serait quand même dommage de s'en priver. Je vais juste donner un tout petit exemple, mais parce que là, je pense qu'il y a la caméra, c'est ça.
Oui, bien sûr, bien sûr.
J'ai eu mes deux mains entièrement brûlées, mais vraiment brûlées, complètement brûlées. Et du coup, par exemple, j'ai été soignée qu'avec des cataplasmes d'argile. Et du coup, j'ai pu récupérer quelqu'un qui aurait dû être brûlé comme moi, aurait dû avoir des cicatrices, en fait. Et je me dis, il y a des choses qui sont simples, ça ne prend pas de temps. Ça ne prend pas de temps forcément dans la journée, etc. Et c'est juste dommage. C'est dommage, du coup, de souffrir de troubles du sommeil. C'est dommage d'avoir des mots où les médecins disent, ils ne savent pas quoi faire. Ou certains, moi, j'ai des gens qui viennent, les médecins ne savent pas quoi faire, donc ils envoient voir, du coup, une naturopathe, simplement parce qu'ils ont l'honnêteté de dire, on ne sait pas. Et donc, voilà. Donc, on a la chance d'avoir plein d'outils dans la nature, d'avoir un corps qui fonctionne bien avec des choses qu'on peut mettre en place de façon simple.
Et c'est déjà le moment pour nous de nous quitter. Merci à toutes, merci à tous. Merci à Tabitha, merci Anne-Marie, Anaïs, Rémi, Virginie et Camille pour la plateforme Tibria. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure dans Dialectique. Merci, au revoir.
Merci.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?